Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Villon à ce micro, au sommaire de cette édition du vendredi 3 janvier 2025. Au Ghana, le Parlement adopte un budget provisoire et évite la fermeture du gouvernement. L'Éthiopie va collaborer à une nouvelle force de maintien de la paix en Somalie.
Il y a un facteur qui ramène aussi bien le gouvernement de Mogadiscio que celui d'Addis Abeba à une amicale collaboration, on peut dire, c'est d'avoir un ennemi commun. Et cet ennemi commun, évidemment, c'est le mouvement islamiste radical du Shabab.
Gérard Prunier nous dira dans la partie magazine les enjeux de la détente en cours dans la Corne de l'Afrique. Ici aux États-Unis, la Chambre des représentants doit élire son président aujourd'hui, mais l'opposition interne menace la réélection du républicain Mike Johnson à ce poste clé. En Corée du Sud, les enquêteurs n'ont pas pu arrêter l'ancien président Yoon Suk-yeol en raison de l'opposition du service de sécurité et des militaires. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. On commence par le journal. Le Parlement ghanéen a adopté un budget provisoire, évitant de justesse une fermeture sans précédent du gouvernement. Alexandrine Ollognon.
Le budget provisoire a été approuvé lors d'une séance qui s'est prolongée dans la nuit de jeudi à vendredi, selon le président du Parlement ghanéen, Alban Bagbé. Le nouveau budget permet au gouvernement de dépenser 68,1 milliards de cedis ghanéens, soit 4,65 milliards de dollars jusqu'au mois de mars. Près d'un tiers du montant approuvé est destiné au paiement aux fournisseurs de services du secteur de l'énergie. Un budget provisoire est généralement adopté au Ghana en novembre, pendant les années électorales, afin de couvrir la période précédant l'entrée en fonction du président élu. Mais la présentation du budget provisoire a traîné cette fois-ci en raison d'une impasse sur la question de savoir si le parti sortant NPP ou le parti entrant NDC dispose de la majorité des sièges à la Chambre. John Dramani Mahama doit prendre ses fonctions de président du pays d'Afrique de l'Ouest la semaine prochaine après avoir remporté les élections du 7 décembre. Il revient au pouvoir dans un contexte de résurgence économique après la pire crise que le Ghana a connue en une génération.
Toujours au Ghana, un énorme incendie a réduit en cendres le principal marché de vente de vêtements de seconde main dans la capitale Accra, affectant des milliers de commerçants et causant des pertes considérables pour l'économie locale, ont indiqué les responsables. L'incendie déclenché mercredi soir tard a ravagé de larges parties du gigantesque marché aux fripes de ce pays d'Afrique de l'Ouest, le marché de Kantamanto, déplaçant des milliers de commerçants. Le Ghana annonce une exemption de visa pour les Africains dotés d'un passeport. Il s'agit de la prochaine étape logique vers la zone de libre-échange continentale africaine et le fonctionnement du plus grand bloc commercial au monde. Ce sont des éléments essentiels à la réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine qui envisage une Afrique intégrée et connectée à l'horizon 2063, a dit le président sortant lors de son dernier discours à la nation. Le Ghana rejoint ainsi le Rwanda, les Seychelles, la Gambie et le Bénin qui permettent déjà aux voyageurs africains d'entrer dans leur pays sans visa. L'Éthiopie a décidé de collaborer à une nouvelle force de l'Union africaine en Somalie qui est déployée bientôt contre les insurgés radicaux de Shebab. L'annonce faite ce vendredi survient après une visite officielle éthiopienne à Mogadiscio où les deux pays ont convenu de renforcer leur coopération sécuritaire et pour la stabilisation régionale. Nani Talani.
Les deux pays ont convenu de collaborer sur la mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine et de renforcer les relations bilatérales, a déclaré sur Facebook la diplomatie éthiopienne. Les discussions ont réaffirmé l'engagement des deux pays à travailler ensemble pour assurer la paix et la stabilité en Somalie et dans la région, ajoute le communiqué. Il salue des échanges fructueux hier entre la délégation éthiopienne menée par la ministre de la Défense et le président somalien. Fin 2024, le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé la création d'une nouvelle force de l'Union africaine en Somalie, remplaçant la mission africaine de transition par la mission de soutien et de stabilisation. Cette nouvelle force doit se déployer ce mois-ci pour lutter contre les insurgés radicaux Shebab. Mogadiscio avait initialement exclu la participation des troupes éthiopiennes en raison de tensions bilatérales liées à un accord maritime entre Addis Abeba et le Somaliland. mais le Kenya et la Somalie ont récemment signé un accord sous l'égide de la Turquie pour apaiser les relations et convenir de leur collaboration dans cette mission.
Au Zimbabwe, un garçon de 7 ans qui avait disparu pendant 5 jours, seul dans un parc national abritant de nombreux lions et autres animaux sauvages, a été retrouvé vivant après avoir parcouru une cinquantaine de kilomètres à pied dans ce parc. Le garçon a survécu en se nourrissant de baies sauvages. Et puis en Zambie, 13 criminels présumés détenus dans une prison sont en liberté depuis l'ouverture de leur cellule le jour de la Saint-Sylvestre par un policier Yves qui leur avait assuré qu'ils étaient libres de partir, a annoncé aujourd'hui la police.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, la Chambre des représentants vote ce vendredi sur le maintien de son actuel patron, officiellement soutenu par le président élu Donald Trump, mais une poignée d'élus sont ouvertement contre son maintien au perchoir. Eric Manirakiza.
Avec 219 républicains contre 215 démocrates à la Chambre basse du Congrès américain, son président ou speaker, Mike Johnson, ne pourra pas se permettre beaucoup de défections dans son camp. Cet élu de Louisiane est très religieux, peut cependant compter sur l'appui du président élu Donald Trump. Une victoire pour Mike aujourd'hui sera une grande victoire pour le parti républicain, a insisté Donald Trump dans un message sur son réseau Truth Social. Le milliardaire Elon Musk, devenu l'une des voix qui compte le plus à Washington, lui a emboîté le pas. Malgré ces deux appuis, le statut de Mike Johnson demeure vacillant, avec déjà plusieurs oppositions annoncées ou suggérées à sa candidature. L'accord budgétaire qu'il a négocié récemment avec les démocrates pour éviter une paralysie des services publics fédéraux juste avant les fêtes est au cœur de la contestation. La bataille qui s'annonce a des airs de déjà vu. La destitution de son prédécesseur Kevin McCarthy avait donné lieu à un psychodrame de 22 jours et exposé au grand jour les luttes intestines du camp républicain. À moins de 3 semaines de son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump souhaite vider ce genre de scénario. Sans speaker, la Chambre des représentants se trouverait dans l'incapacité de certifier la victoire de Donald Trump à la présidence lors d'une session prévue lundi.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est attendu en Corée du Sud lundi. Monsieur Blinken sera reçu par son homologue sud-coréen Cho Tae-yul pour discuter de l'alliance entre la Corée du Sud et les États-Unis, la coopération entre Séoul et Washington et le Japon, les questions liées à la Corée du Nord et les défis régionaux et mondiaux, a précisé le ministère sud-coréen des Affaires étrangères dans un communiqué. Les enquêteurs sud-coréens ont essayé en vain ce vendredi d'arrêter le président déchu Yoon Suk-yeol, protégé par sa garde rapprochée dans sa résidence de Séoul. Nouveau rebondissement dans la grave crise provoquée par sa tentative ratée d'imposer la loi martiale. Les précisions de John Lydon.
Les procureurs et agents du bureau d'enquête sur la corruption des hautes personnalités sont restés pendant près de 6 heures à l'intérieur de la résidence présidentielle, se heurtant à quelques 200 soldats et agents du service de sécurité présidentielle. Les enquêteurs ont fini par en sortir bredouille sous les objectifs des caméras et des centaines de manifestants et supporters de Yoon rassemblés à l'extérieur. Le service de sécurité présidentielle avait déjà empêché plusieurs perquisitions ces derniers jours des enquêteurs au domicile du président déchu qui a refusé de répondre à plusieurs convocations des enquêteurs. Le bureau d'enquête sur la corruption des hautes personnalités a jusqu'au 6 janvier pour exécuter le mandat d'arrêt contre Yoon Suk-yeol délivré par un tribunal de Séoul mardi en vue de l'interroger. Une arrestation de Yoon Suk-yeol, qui reste officiellement le chef de l'État, et n'est que suspendu en attendant la confirmation par la Cour constitutionnelle de sa destitution votée par les députés, serait sans précédent dans l'histoire de la Corée du Sud. Yoon Suk-yeol avait sidéré la Corée du Sud dans la nuit du 3 au 4 décembre en imposant la loi martiale et en envoyant l'armée au Parlement pour tenter de le museler, un épisode qui avait rappelé au pays les heures sombres de la dictature militaire.
Et le président américain Joe Biden se rendra lundi à la Nouvelle-Orléans pour partager la peine des familles endeuillées par l'attaque à la voiture Bélier qui a fait au moins 14 morts mercredi, a annoncé aujourd'hui la Maison-Blanche. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Alexandrine Ollognon.
Le Parlement ghanéen a adopté un budget provisoire, évitant de justesse une fermeture sans précédent du gouvernement. Ce budget permet au gouvernement de dépenser 68,1 milliards de cedis ghanéens jusqu'au mois de mars, selon le président de la Chambre. John Dramani Mahama devrait prendre ses fonctions de président du Ghana après avoir remporté les élections du 7 décembre. Il revient au pouvoir dans un contexte de résurgence économique après la pire crise que le pays a connue depuis une génération. La contrebande de cacao de la Côte d'Ivoire vers la Guinée prend des proportions inquiétantes. Selon les exportateurs, environ 50 000 tonnes de cacao ivoirien, d'une valeur d'environ 573 millions de dollars aux prix mondiaux actuels, ont été transportées illégalement entre octobre et décembre. Une fois en Guinée, le cacao ivoirien est exporté vers des pays asiatiques tels que l'Indonésie et la Malaisie, selon les exportateurs. Les prix des denrées alimentaires dans le monde ont diminué de 2,1% en 2024 par rapport à l'année précédente, essentiellement du fait de la baisse des cours mondiaux des céréales et du sucre, selon la FAO. Ces baisses ont été en partie compensées par la hausse des cours des huiles végétales, des produits laitiers, notamment portés par les prix du beurre et des viandes.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Ligue africaine des clubs champions et coupe de la Confédération, Djoliba et Stade Malien visent la victoire lors de la quatrième journée des phases de groupe.
Le Djoliba Athletic Club de Bamako, avec seulement 2 points après 3 journées, devra impérativement gagner contre Sagrada Esperanza d'Angola ce dimanche 5 janvier 2025. Son entraîneur Demba Mamadou Traoré restait confiant.
L'état d'esprit, il est au beau fixe. Je pense que tous les joueurs, sans exception, sont tous motivés, contents et encore impatients d'entendre le match. Parce que c'est un match très important pour nous. On a besoin de points pour penser, espérer se qualifier, Inch'Allah.
Et en plus de ça, le Djoliba est en quatrième position dans son groupe. Dites-nous quel va être le mot d'ordre.
Le mot d'ordre, il est simple. On rentre dans une compétition pour faire un résultat. Donc le mot d'ordre pour nous, c'est d'aller chercher coûte que coûte, vaille que vaille, les 3 points pour espérer se qualifier, Inch'Allah.
Le Djoliba va jouer en dehors de ses supporters. Un mot à leur endroit.
On n'est pas ensemble, c'est vrai, oui, mais les cœurs vont suivre, les esprits vont suivre et je suis sûr, Inch'Allah, qu'ils vont nous accompagner avec des bénédictions et prières. Et nous aussi, on aura une pensée forte pour eux au moment d'affronter Esperanza.
Parallèlement, au stade du 26 mars de Bamako, le stade malien affronte Renaissance Sportive et Berkane du Maroc dans la Coupe de la Confédération avec l'objectif de décrocher les 3 points à domicile, selon son entraîneur Mamoutou Kané Di Mourlé.
Le mot d'ordre, c'est gagner le match, obligatoirement gagner le match. Même si je dis obligatoirement, c'est pas se précipiter pour que ça se complique davantage. On va tout doucement, sereinement. On peut marquer à la première minute comme on peut marquer à la 90e minute. L'essentiel, c'est d'avoir les 3 points.
Qu'est-ce qui va être la différence dimanche?
La différence va être la détermination, l'engagement et vouloir gagner le match coûte que coûte.
Un mot à l'endroit des supporters du stade malien, des supporters du Mali.
J'en appelle à tous les supporters du stade et à tous les supporters maliens de venir soutenir le stade malien parce que c'est un tournoi, ce match c'est un tournoi du reste de la compétition. Et ce serait bien si les Sargues arrivent à gagner ce match. Et ça peut donner une autre dimension par rapport aux situations du football malien. Parce qu'on a des représentants, on peut avoir 4 représentants. Donc je demande à tous les supporters maliens de sortir, surtout les supporters sadistes, de sortir massivement, je dis massivement, pour soutenir cette équipe, pour qu'ils puissent avoir ces 3 points.
Des propos recueillis par notre correspondant à Bamako, Siaka Traoré.
Dakar 2025, Lategan empoche le prologue en auto.
Oui, le Sud-Africain Henk Lategan a signé le premier temps du prologue du Rallye Dakar qui a débuté ce vendredi à Bicha pour sa 6e édition dans le désert d'Arabie Saoudite. Le Français Sébastien Loeb terminant 7e.
Page de sport VOA Afrique signée Eric Manirakiza. Le
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Une nouvelle caravane de migrants est partie du sud du Mexique en direction du nord dans l'intention d'arriver aux États-Unis ou de s'établir à Mexico City. Mais il est peu probable qu'elle atteigne la frontière américaine après que les autorités ont dispersé d'autres petites caravanes en novembre et décembre. Les précisions avec Lionel Gaïma.
Environ 1500 migrants, pour la plupart originaires du Venezuela, du Guatemala, du Salvador, du Pérou et de l'Équateur, sont partis aux premières heures de jeudi de Tapachula, une ville située près de la frontière sud du Mexique avec le Guatemala. William Arroyo, migrant du Venezuela.
Nous avons pris l'initiative de marcher jusqu'à Mexico parce que c'est le seul moyen qu'on a, parce qu'ils ne nous donnent pas d'autorisation, parce que nous ne pouvons pas voyager en bus ou ils nous renvoient.
De nombreux migrants ont déclaré qu'ils en avaient simplement assez d'être à Tapachula, une ville qui accueille des milliers de migrants et où il n'y a pas beaucoup de travail. Erika Murcia, migrante du Venezuela.
La situation à Tapachula est intenable parce qu'il n'y a pas de travail, en particulier pour les femmes. Ils imposent une norme d'âge de 18 à 35 ans. Ils ne vous donnent pas de travail si vous avez plus de 35 ans.
D'autres petites caravanes avaient été mises en place après l'élection de Donald Trump, mais ont été dispersées quelques semaines plus tard par les autorités mexicaines. Si certains migrants de la caravane rêvent toujours d'arriver aux États-Unis, d'autres, plus réalistes, envisagent de travailler au Mexique et peut-être de rentrer plus tard dans leur pays d'origine. Liz Carly Colmenares, migrante du Venezuela.
Nous voulons travailler à Mexico et attendre, acheter les billets et retourner au Venezuela si Donald Trump ne nous laisse pas entrer.
Un camp a été installé dans le centre-ville de Mexico, mais déborde déjà face à l'arrivée de migrants. Certains ont été transportés en bus vers des villes du sud du Mexique et d'autres se sont vus offrir des documents de transit. Mais le Mexique se prépare déjà, lui aussi, à accueillir un afflux de ses ressortissants qui pourraient être expulsés des États-Unis après l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Luis García Villagrán, défenseur des droits des migrants.
Nous pensons qu'après ces expulsions massives, il doit y avoir un accord entre le gouvernement mexicain et le gouvernement des États-Unis pour établir des politiques humanitaires en faveur de toutes ces personnes, car elles ne sont pas des criminels. La seule chose que nous demandons, c'est une chance pour ces personnes de vivre parce qu'elles sont victimes d'une migration forcée.
Le gouvernement mexicain a annoncé la mise en place d'une application pour ses ressortissants aux États-Unis menacés par les expulsions. L'application permet d'envoyer un signal au consulat le plus proche, au proche de la personne et au ministère mexicain des Affaires étrangères. La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a aussi insisté auprès des États-Unis pour que tout rapatriement soit effectué vers les différents pays d'origine au lieu d'expulser tous les migrants vers le Mexique.
Salut tout le monde, ici c'est votre commandant de bord, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Chaque semaine dans cet engin super fast, super sonique, super rapidos, vous voyagez avec nous dans une belle ambiance musicale. Nos sujets socio-culturels et hebdomadaires, nos invités de marque et nos segments du jour, l'anglais, le sport, la comédie et l'actualité en bref, les tout dont RM Show, chaque soir entre 20h et 21h, temps universel. Envoyez-nous vos messages audio au plus 1-703. 350-37-31. Chers passagers, ne ratez pas votre avion supersonique Super Rapidos. Jobless. Peace Africa.
L'Éthiopie a annoncé ce vendredi son intention de contribuer à une nouvelle force de l'Union africaine en Somalie contre les Shebab. Les autorités somaliennes ont exprimé leur volonté d'examiner cette demande d'envoi de troupes dans le cadre de la mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine EUSOM, soutenue par le Conseil de sécurité de l'ONU. Ces déclarations marquent-elles un tournant dans les relations entre Addis Abeba et Mogadiscio? Pour une analyse, Eric Manirakiza, adjoint à Paris, Gérard Prunier, spécialiste de la Corne de l'Afrique.
Oui et non. On peut dire que les
les Turcs ont joué monsieur bons offices dans cette affaire, mais il est bien évident que l'intérêt de l'Éthiopie est de créer un port dans la mer Rouge, et que ça, c'est dans une région sécessionniste qui s'appelle la Somaliland, sur laquelle Mogadiscio n'a aucun contrôle. Mais on peut essayer de faire semblant d'être gentil, et puis d'essayer de fonctionner sur une ambiguïté.
Est-ce qu'on peut appeler ça une détente qui sera fragile ou durable ?
Ça n'est pas une défense et ça n'est ni fragile ni durable. Ça se maintiendra tant que les deux parties prenantes, c'est-à-dire le gouvernement fantôme qui habite Mogadiscio et puis les Éthiopiens, seront d'accord pour poursuivre un fonctionnement sur la base d'une situation virtuelle.
Il existait une mission africaine de transition en Somalie, ATMIS, qui a fait beaucoup d'années là-bas. Que pourrait changer cette nouvelle mission appelée de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie ?
Au niveau de la réalité, rien. Parce que simplement, il suffit de laisser les soldats éthiopiens qui sont déjà présents là, ils changent de couleur de béret et puis ils disent voilà, nous représentons la nouvelle mission qui est au même endroit et fonctionne selon les mêmes principes que l'ancienne. Alors, il y a un facteur qui ramène aussi bien le gouvernement de Mogadiscio que celui d'Addis Abeba à une amicale collaboration, on peut dire, c'est d'avoir un ennemi commun, ce qui est une des grandes bases de toute diplomatie. Et cet ennemi commun, évidemment, c'est le mouvement islamiste radical des Shabab.
Les autorités somaliennes ont signifié, notamment les autorités burundaises, de faire entrer leurs forces. Il y a aussi l'Ouganda qui était présent. Comment vous analysez cette nouvelle approche ? Ce sont deux pays qui ont quand même perdu beaucoup d'hommes pour soutenir le gouvernement de Mogadiscio.
C'est clair, hein. Les Burundais ont déjà refusé, donc on les verra pas, et comme vous dites, ils ont assez souffert comme ça en Somalie, ça suffit. Est-ce que les Ougandais reviendront ? Ça dépend de la manière dont Museveni, qui est très vieillissant et qui souhaite préparer sa succession, voit les rapports avec l'Union africaine et au-delà de l'Union africaine avec les Nations unies. S'il pense que c'est une bonne chose, il le fera. Mais il n'y a pas évidemment beaucoup d'enthousiasme du côté de l'armée ougandaise.
Gérard Prunier, spécialiste de la Corne de l'Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Lagos débute l'année 2025 en beauté avec le carnaval Fanti, une célébration qui a envahi les rues de la capitale économique du Nigeria au premier jour de l'année. Héritage vivant d'une tradition née au 19e siècle, cet événement marie les influences culturelles brésiliennes et cubaines avec une identité locale. Un véritable spectacle où danse, musique et fraternité résonnent dans un élan d'espoir et de renouveau. Nani Talani.
Le carnaval Fanti ou Karita, tradition annuelle qui se déroule chaque année le 1er janvier, est un moment de fête et de rassemblement pour les habitants de Lagos, grande ville métropolitaine du sud-ouest du Nigeria et zone urbaine la plus peuplée d'Afrique. Cet événement, mêlant musique, danse et costumes colorés, reflète la richesse de l'héritage culturel du Nigeria tout en célébrant l'esprit de communauté et de renouveau. Saïd Arolou, un habitant de Lagos, s'exprime sur l'importance de cette célébration et l'espoir qu'elle suscite pour l'avenir de la communauté.
We are celebrating Nous faisons la fête parce que c'est un nouveau départ. Nous voulons prendre un nouveau départ. Nous avons fait beaucoup de choses dans le passé, alors nous profitons de cette occasion pour nous unir, pour essayer d'envisager un avenir meilleur.
Tradition née au 19e siècle et introduite par la diaspora rentrée du Brésil et de Cuba, cette parade est une fusion unique de l'héritage culturel des deux continents. Ses origines remontent à la période coloniale, lorsque les anciens esclaves brésiliens sont revenus s'installer à Lagos au 19e siècle. Kunle Alarapé, un autre résident de Lagos, souligne l'aspect collectif et éducatif du carnaval en mettant en lumière les échanges intergénérationnels qui renforcent les liens communautaires.
L'aspect essentiel de la célébration est que tout le monde rentre à la maison. Nous délibérons et il y a des progrès dans la communauté. Nous comptons parmi nos proches des enseignants à l'université. Et nous les mettons en relation avec les jeunes qui ont l'intention de faire des études supérieures à l'université, ce qui nous permet de bénéficier de leur soutien.
Le carnaval Fanti de Lagos, symbole de résilience et d'unité, offre un aperçu vibrant de l'histoire et des traditions qui façonnent la ville. Alors que la foule danse et chante, l'événement devient un point de ralliement pour les habitants, unissant les générations autour d'un avenir prometteur. En ce début d'année, cette célébration illustre la volonté collective de bâtir un futur meilleur, fort de son passé et de ses valeurs culturelles.
Au Maroc, derrière les murs de la Casbah des Oudaya, le musée national de la parure de Rabat, enrichi par une donation du roi Mohamed VI, révèle des trésors, des bijoux d'une beauté intemporelle, témoins d'une histoire millénaire, y sont exposés, invitant les visiteurs à un voyage au cœur de l'artisanat marocain. Les détails avec Rosine Monezero.
Situé au nord-est de la ville de Rabat, le musée national de la parure de Rabat date du 17e siècle. Il englobe des objets très importants de la culture marocaine et pour garder cette richesse, le musée a même reçu un don de la part du roi Mohamed VI.
Le musée, c'est un musée qui se situe à l'intérieur de la Casbah, qui date du XVIIe siècle et qui s'agit aussi du premier musée du Maroc qui, à travers le temps, a pu enrichir une collection et englober une collection très très importante, sans oublier la généreuse donation de Sa Majesté le roi Mohamed VI qui est venu pour enrichir cette palette qui couvre toute la cartographie du Maroc et qui est un acte généreux de partage, de donation et surtout de préservation.
La réputation du musée a aiguisé la curiosité d'Othmane Barbach, qui tenait à s'y rendre. L'archéologie des pièces qu'il a vues est impressionnante, dit-il.
La réputation historique du musée niché au cœur de la Casbah des Oudaya m'a donné envie de découvrir ses collections. J'ai été particulièrement séduit par les pièces archéologiques, notamment les bijoux datant d'une période s'étendant du 9e au 20e siècle, qui m'ont poussé à explorer plus en profondeur le musée de la parure.
Le musée national de la parure de Rabat attire Marocains et étrangers. Sa mosaïque ornementale est au cœur de cette attirance touristique.
Je suis ravie d'avoir enfin pu visiter ce musée. La cohabitation de visiteurs marocains et étrangers, tous captivés par le zélige, les objets et les costumes traditionnels, m'a rempli de joie. C'est une belle preuve que notre patrimoine continue de fasciner.
La Casbah, au milieu de laquelle on retrouve le musée national de la parure, a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Lionel Gaïma. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.